Alain Goudard. Bonjour et bienvenue à tous dans Résonance. Ne cherchez pas ailleurs, tendez l'oreille sur Radio B avec Résonance, le rendez-vous radiophonique de Résonance contemporaine, pôle ressources départementales et régionales, culture et handicap, musique contemporaine. Résonance se met à l'écoute des modes de pensée, des inventions, des mouvements, des croisements, des formes d'expérimentation artistique, de la création dans toute sa diversité, portée par des équipes artistiques, des compositeurs, des artistes, et aussi par tous ceux, toutes celles qui affirment une capacité, une manière d'exprimer, de dire, et qui occupent une place parfois autre que celle qui leur sont assignées. Pour vous et avec vous, chaque émission prend un visage, un aspect, une forme différente pour rendre compte de la pluralité des expressions humaines, pour prendre du plaisir, celui de la découverte et nourrir le penser. Résonance sur Radio B pour rendre audible l'inaudible, pour accueillir toutes les capacités parlantes. C'est un rituel que vous connaissez, commencez à connaître maintenant, puisque nous ouvrons chacune de nos émissions par une œuvre du compositeur José Evangelista. En effet, nous avons choisi de participer tout au long de cette saison radiophonique à l'hommage que rend la Société de musique contemporaine de Québec au compositeur José Evangelista, en vous permettant de découvrir au cours de ces rendez-vous le parcours, l'univers, la musique et le travail exceptionnel que José Evangelista a accompli au cours de toutes ces années. Ojava, que nous venons d'entendre ensemble, a été composé en 1993 pour un ensemble instrumental composé de flûtes, de hautbois, de clarinettes, de bassons, de cordes, de trompettes, trombones, piano, harpe, de percussions et instruments à cordes. C'était une commande donc du Winnipeg Symphony Orchestra, qui était l'orchestre qui interprétait la présente version que nous avons écoutée ensemble. Et Walter Boudreau, qui est le directeur artistique de la Société de musique contemporaine de Québec, évoque en ceci la musique de José Evangelista. Il dit il a fait en sorte de revisiter le contrepoint avec une nouvelle approche très intéressante. Et sa musique nous fascine puisqu'elle est à la fois savante et très accessible. Alors on peut rappeler que la démarche personnelle de José Evangelista fait en sorte qu'il explore des façons de faire une musique fondée exclusivement sur la mélodie. Il a ainsi développé, autant pour des petits ensembles que pour l'orchestre ou le clavier, une écriture hétérogène où la ligne mélodique, engendrant des échos d'elle-même, crée une illusion de polyphonie. Sa musique prend ses racines d'une vision très large de la tradition. À ses origines espagnoles se sont greffées l'influence du gamelan indonésien, de l'avant-garde occidentale et des théories du Moyen-Âge. Et on a pu entendre justement à travers de Ojava cette influence justement du gamelan indonésien. Alors signalons que l'œuvre que nous avons écoutée ensemble fera partie du programme musical présenté par l'Orchestre symphonique d'Ottawa, placé sous la direction d'Alain Trudel, le 19 mars 2018. Il y a encore quelques temps, mais voilà, signalons que donc l'œuvre de José Evangelista circule à travers le monde et donc spécifiquement cette année donc au Québec. Alors poursuivons maintenant le déroulement de notre émission. Autre découverte aujourd'hui, puisque je vous invite à découvrir le travail que conduit une association musicale à Lyon depuis 1996. Il s'agit de l'Été musical, un centre de pratique musicale, d'enseignement de la musique et de musicothérapie à destination des personnes en situation de handicap. Résonance sur Radio B pour rendre audible l'inaudible, pour accueillir toutes les capacités parlantes. Pour nous faire partager l'action artistique que mène l'Été musical, j'ai le plaisir d'accueillir au téléphone Hélène Gosset, chargée de production et de diffusion au sein de l'Été musical. Bonjour Hélène Gosset.
Bonjour Alain Goudard et merci de m'accueillir dans cette émission.
Mais c'est nous, bienvenue aussi à vous dans cette émission. Alors peut-être Hélène Gosset, nous pourrions dans un premier temps, si vous le voulez bien, évoquer ce qu'est l'été musical. Qu'est-ce qui a conduit finalement en 1996 à imaginer, à créer une structure comme l'été musical et peut-être quelles en étaient les raisons ou le contexte?
Alors l'été musical, comme vous l'avez dit, a été créé en 1996 par Chantal Roussel, qui est donc la fondatrice de l'association, qui est musicologue, professeur de musique et musicothérapeute. Et l'objectif de l'été musical, c'est de proposer des activités qui permettent l'accès de tous à la pratique musicale et notamment de ceux qui accèdent plus difficilement aux structures ordinaires de pratique et d'apprentissage de la musique. Donc on s'adresse aux enfants et adultes handicapés, aux personnes âgées dépendantes, aux personnes en difficulté. Donc des personnes qui n'ont pas forcément accès au conservatoire, par exemple.
C'est ça, au lieu de pratique habituelle de la musique, voilà. Principalement de la musique. Hein. Et oui. Je crois que là maintenant, il y a un nombre considérable de personnes qui bénéficient de ces ateliers et de cet accès à la musique.
Alors si on cumule, oui, nos ateliers musique et nos ateliers de musicothérapie, puisque c'est nos deux activités, ouais. Nos deux principales activités, on accompagne près de 500 personnes en situation de handicap sur la métropole de Lyon. Ouais.
Oui, ce qui montre bien d'abord la nécessité d'un travail comme le vôtre et celle de l'été musical du développement que ça a permis parce que de s'inscrire dans une continuité, défendre aussi ce genre de choses. J'imagine que ça n'a pas toujours été facile aussi pour l'été musical.
Oui, alors c'est sûr qu'au début, quand Chantal est arrivée, on se demandait un petit peu... qu'est-ce qu'on voulait faire de la musique avec des personnes en situation de handicap. Mais maintenant, depuis 20 ans que l'été musical existe, on est plutôt reconnu à Lyon. Et puis surtout, on fait le lien en fait, entre souvent le monde de la culture et le monde du médico-social. Parce que puisque dans nos activités, on a les ateliers de musique et de musicothérapie, mais on a aussi un rôle de diffusion des savoirs et de pôle ressources. Et donc, on organise des formations, des stages de sensibilisation aux arts-thérapies au sein des établissements du médico-social. Et de l'autre côté, quand on va au sein des écoles de musique et des conservatoires, on fait des stages de sensibilisation à l'accueil des publics en situation de handicap.
Donc du coup, là aussi, ce qui paraît également important dans la démarche de l'été musical, c'est qu'elle va permettre finalement de reconnaître, parce que là c'est le langage musical qui va être porteur, de la portée d'une pensée que peut-être, en tout cas d'un certain public, qu'on n'entend pas toujours justement dans l'espace public ou qu'on ne reconnaît pas forcément toujours comme une vraie parole. On pourrait dire que quelquefois l'expression artistique ou verbale ou autre de la personne en situation de handicap peut être cantonnée à une parole peut-être un peu bruiteuse, mais pas forcément toujours reconnue comme une parole authentique, en tout cas une vraie parole. Et peut-être que là, les pratiques artistiques permettent justement de donner sens et peut-être vie aussi et intérêt à une telle parole.
Oui, bien sûr. Et c'est pour ça que depuis un an, on a décidé de développer un nouveau pôle d'activité qui est la diffusion de spectacles et la production de spectacles qui sont écrits et joués par des artistes en situation de handicap. Mmh. Parce que, donc oui, on voit que l'intégration des personnes handicapées commence à se normaliser, qu'on parle de plus en plus d'inclusion.
Mmh, oui, tout à
mais
fait.
L'idée, c'est de poursuivre ce processus en affirmant que la personne qui est porteuse de handicap, elle n'est pas forcément... confinée dans son activité professionnelle à ce qu'on peut trouver souvent, par exemple, dans les ESAT, c'est-à-dire des activités professionnelles strictement manuelles, mais ils peuvent aussi chercher à avoir une activité artistique à visée professionnelle.
C'est ça.
Et donc, nous, ce qu'on veut, c'est d'émanciper la prise de parole de ces artistes et donc qu'ils puissent se positionner aussi en tant qu'individus créateurs et acteurs de la société et qu'eux aussi ont une parole... Et un imaginaire qui peut être entendu de tous et qui peut être très porteur, notamment dans le cadre de sensibilisation au handicap. Parce que c'est toujours plus fort quand la parole vient de personnes qui sont directement concernées. Et ils ont beaucoup de choses à dire.
On imagine, oui.
Parce qu'avec les percussions de très fort, vous savez aussi que
nous connaissons
c'est important.
Aussi ça. Ouais. Effectivement. Et puis c'est vrai qu'on peut dire que la reconnaissance de la dignité de quelqu'un, elle commence évidemment par celle de sa parole. Si effectivement il n'y a pas la reconnaissance à un moment donné de celle-ci, c'est quelque part une négation un peu de la dignité de cette personne.
Oui. Oui, tout à fait.
Alors, ce qui me semble aussi intéressant, et on va y venir au fur et à mesure, peut-être de manière un petit peu plus approfondie, peut-être que l'été musical intervient effectivement sur deux plans. On pourrait dire, dans la première partie, des raisons et du contexte que vous exprimiez il y a quelques instants sur la naissance en 1996 de l'été musical. Ça contribue, je dirais, à et ça, ça me paraît important et à voir comment vous le sentez de votre côté, c'est que du coup, on va dire, il n'y a pas une pratique spécifique musicale, on pourrait parler théâtrale ou chorégraphique, etc., vis-à-vis d'un public spécifique, mais il y a le champ des pratiques artistiques dans leur globalité. Donc, on pourrait, il me semblerait aussi important de considérer la personne en situation de handicap avant tout comme un amateur, finalement, et qu'un amateur, comme tout amateur, a besoin de trouver des espaces où il va pouvoir forger, expérimenter, aborder des modalités d'expression.
Ah bah, tout à fait. D'ailleurs, dans nos ateliers, la musique, elle est abordée sous plein d'aspects différents. Hein. Mmh. Écoute, expression corporelle, sonore, vocale, instrumentale. C'est vraiment... l'activité musicale se construit à partir de la personne, et du plaisir qu'elle cherche dans la séance... et puis surtout à l'épanouissement de la personne. Et la personne choisit l'instrument qu'elle a envie de jouer. Mmh. On a dans nos locaux un instrumentarium où il y a plein de choix. Et si la personne veut apprendre d'un instrument, on va adapter nos méthodes d'apprentissage. Tout s'adapte en fonction de la personne, en fait, de son envie, comme n'importe quelle autre personne qui aimerait faire de la musique et qui aurait le choix, en fait.
C'est ça. Alors, est-ce que ça veut dire aussi, tout au long du développement de l'action de l'été musical, que petit à petit, des liens ont pu se nouer ou des passerelles ont pu s'imaginer peut-être avec d'autres lieux d'enseignement de la musique? Je pense, vous l'évoquiez aussi tout à l'heure, les conservatoires, où on pourrait penser aussi à des ateliers musicaux dans d'autres lieux culturels, de quelque nature que ce soit. Est-ce que le fait de pouvoir accompagner toutes ces personnes permet à certains moments donnés de croiser cette pratique musicale avec d'autres lieux qui, eux, voilà, on va dire institutionnellement, sont un peu les lieux dans lesquels un public peut découvrir en tout cas la pratique musicale?
Oui, alors on a des partenariats avec notamment le Conservatoire de Lyon. Mmh. On a aussi le Conservatoire de Meyzieu dans lequel on fait directement des ateliers donc dans leurs locaux. Mmh. Alors le Conservatoire de Lyon, par exemple, on a tous les ans Chantal Roussel qui anime un atelier avec Véronique Bouage au Conservatoire. Mmh. Et en fait, ils font un travail qui mêle des jeunes étudiants en musique du Conservatoire, qui sont en troisième année, et des porteurs de handicap qui viennent de La Page à Villeurbanne. Et tous les ans, il y a un travail pendant toute une année et qui donne lieu à un spectacle. Mmh. Qui peut être soit donné au conservatoire, soit cette année, il a été donné au sein de l'épicerie moderne, qui est une salle de spectacle à Fézin. Mmh. Et donc, ça a permis de croiser, d'avoir un spectacle mêlant des musiciens dits valides avec des porteurs de handicap. Mmh. Et d'ailleurs, l'épicerie moderne, tous les ans, nous renouvelle aussi un partenariat qu'on a, et tous les ans, il y a notre Kaléidoson qui a lieu dans cette belle salle. Mmh. Et ça aussi, ça permet d'apporter un public nouveau, de donner à voir ce qu'on peut faire dans nos ateliers et toujours d'avoir la rencontre entre des personnes qui ne pourraient pas se croiser normalement.
C'est ça. Et je pense, puisque Nathalie Leverrier, qui est au C2R aussi, donc au conservatoire à rayonnement régional aussi à Lyon, donc le conservatoire dont vous évoquiez le partenariat, peut-être aussi votre action sert de contamination, même si on sait que les préoccupations, la loi de 2005 étant passée aussi là, du mois de février 2005, invitant tous les établissements accueillant du public dans le domaine culturel, et puis bien sûr au sens large, à réfléchir aussi sur les missions, les enjeux et la place aussi de parcours qui puissent correspondre à l'ensemble du public qui vient taper, si je peux dire ainsi, à la porte de ces établissements et donc accéder, en l'occurrence ici, à la pratique musicale. Et peut-être qu'il y a contamination aussi, peut-être accompagnement, échange, en tout cas alimentation d'une réflexion avec justement ces lieux-là qui, jusqu'à présent, n'avaient pas forcément complètement pris en compte, si on peut dire encore, aujourd'hui, l'accès et une pédagogie musicale qui concerne l'ensemble de ces publics ou propose des parcours différenciés en fonction de ce que chacun vient chercher dans cet établissement.
Oui, on a vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe, en tout cas en ce moment.
Ouais.
De plus en plus d'écoles de musique nomment des référents handicap.
Tout à fait.
Donc ça, c'est très bien. Là encore, récemment, on est en train d'organiser un stage de sensibilisation à l'accueil des publics en situation de handicap à l'école de musique de Vénissieux. Donc on se dit qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe. Et puis encore récemment, ce que vous dites, ça me fait penser à un rapport d'information qui est paru cet été d'un groupe de travail de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication au Sénat. Où justement ils parlaient du fait que les établissements culturels devaient former leur personnel dans le cadre de leur formation continue à l'accueil et à la prise en charge des personnes en situation de handicap. Donc je me dis qu'il y a une prise de conscience au niveau du Sénat, c'est qu'il y a eu une émulation qui s'est passée aussi dans les écoles de musique et le conservatoire et que ça a été... on sent qu'il y a quelque chose qui bouge.
Oui, tout à fait. Je crois que ça participe effectivement à ce frétillement, à ce bouillonnement, on pourrait même peut-être mettre ce terme aussi, qui peut-être a lieu, en tout cas dans tous ces lieux de pratique. En tout cas, ça devient quelque chose qui, même si je pense qu'il y a encore beaucoup à faire, mais on parlera dans un moment de l'autre aspect que vous évoquiez tout à l'heure, parce qu'effectivement, là, on évoque la pratique amateur au sens large et que dans le cadre de cette pratique amateur, la personne en situation de handicap, comme tout un chacun ou chacune, puisse, au gré de ses envies, pouvoir accès à ces lieux de pratique sera effectivement autre chose encore, l'accès à la pratique professionnelle qui, bien sûr, encore questionne à plus d'un endroit encore toutes ces choses. Mais ce que peut-être je voudrais vous proposer, Hélène Gosset, nous avez fait parvenir justement plusieurs éléments musicaux concernant un peu le travail réalisé au sein de l'été musical, et peut-être d'écouter justement le slam de Romain, quand on évoquait tout à l'heure la dignité, la reconnaissance de la parole de chacun, peut-être d'écouter ce slam de Romain intitulé « Être un homme ».
Très bien.
Pour moi, être un homme. Pour moi, être un homme. À faire pour gagner sa vie. Il ne faut pas te moquer des autres. Il ne faut pas te. Il faut pas rigoler comme un con avec son handicapé. Être handicapé, c'est pas marrant tous les jours. Il ne faut pas rire pour rêver des parents magnifiques. Il ne faut pas être comme des comédiens. Être un homme à faire de voter, de mailler pour avoir des enfants. Ça ne sert à rien de manquer des personnes comme nous avec le son handicapé. Tout le monde, soit comme moi ou pas, toutes les personnes ici essaient de manquer de moi. Être un homme essaie à regarder les tableaux à peinture sont belles et beaucoup d'émotion. Être un adulte à faire de lire des belles œuvres magnifiques. Pour à côté la musique comme mélancolique. Il ne faut pas rigoler comme un con.
Je
veux
dire quoi, ma mère?
Parce que je suis normal et moi je suis un homme de frais, mais je suis courageux. J'aime pas le regard des gens. Je regarde à travers, mais c'est rien de moquer des personnes comme nous. On vira mes nerfs, on vira dans mon cœur, on vira près de toi. Hélas, à quoi sert de moquer à quoi sert? À rien. Moi, je suis un homme de cœur, je suis généreux avec les gens normaux. J'ai envie de l'aider les autres à ma manière, regarde-moi. Des fois, je rêve et des fois je pleure dans ma chambre ou intérieure. On ira près de toi quand mon cœur est éternel. On ira près de toi quand mon corps est généreux. Et voilà mon espoir magnifique. On regarde des passages, on verra après de toi. On verra que mon cœur est éternel. On verra, voilà nous moins de mes canons. On verra. Aide un homme ou avec son le problème. C'est pas ça le principal. Tu veux être ensemble pour aller à. Pour travailler avec vous. Et moi, je suis un homme de cœur et mes rames maintenant. On verra. On verra après de toi. Dans mon cœur, dans mon esprit, il y a quelque chose de bien et ou mal. Je manque ce déteste. Des remarques à son tour, on reste toujours le même patient qu'était.
Merci. Résonance sur Radio B pour rendre audible l'inaudible, pour accueillir toutes les capacités parlantes. Être un homme, Hélène Gosset, voilà une parole forte. Hein. On a entendu donc cet enregistrement live de cette poétique, hein, de cette expression, on sent très sincère, de belles paroles prononcées par Romain, en tout cas.
Ah oui. Bah, Romain Bessière, du coup, qui est l'auteur de ce slam, et qui dit des choses très fortes, très fortes, belles sur... sur sa condition de personne en situation de handicap, le regard des gens sur lui, sa famille, le fait que est-ce que être un homme c'est pouvoir se marier, pouvoir voter, donc qu'est-ce que ça fait de lui si du fait de son handicap il y a des choses comme ça qui lui sont interdites dans notre société ou enfin, il exprime plein de choses dans ce slam, en fait. Plein de choses qui peuvent être tabous.
Complètement.
Et lui, il y va en face d'un public de 300 personnes.
C'est ça qui est aussi intéressant. C'est-à-dire qu'on voit bien au travers de la parole de Romain, et en même temps être un homme, les mots sont forts, effectivement, ce côté pluriel, quoi, nécessaire de notre société, hétérogène, justement, qui quelquefois, elle a du mal, elle a plutôt envie, quelquefois, d'homogénéiser, hein, justement. Ouais. Mais on voit bien que la notion de pluriel naît aussi de cette diversité, justement, des particularités individuelles. Et là, Romain nous fait tout entendre sa singularité, sa particularité individuelle. Alors, tous se ressemblent, mais aucune, finalement, aucun et aucune n'est équivalente à un ou une autre. Hein. Et c'est bien ce qui fait, je dirais, quelque part, l'étrange et la merveilleuse condition de la possibilité de la pluralité. Et c'est vrai que tout ce que dit Romain va en ce sens, et ça m'évoque aussi un petit peu comme cela la parole du philosophe Jean-Luc Nancy qui dit quelque part que le singulier c'est d'emblée chaque un et donc aussi chacun avec et entre tous les autres. Et je pense qu'il y a aussi de voilà ça me semble aller en écho hein, justement à ce que l'on vient d'entendre ensemble et rendre lisible et visible la parole, le langage, effectivement, les modes d'expression de celui ou de ceux ou de celles qui apportent quelque chose que n'apportent pas d'autres, finalement, c'est faire reconnaître ce que, alors vous le disiez à l'instant, quelquefois, et peut-être à nombreux endroits de la société, dans son fonctionnement, s'obstine à rejeter. Et c'est prendre en compte aussi les richesses délaissées, voire les réintroduire au centre du jeu social. Et c'est peut-être là, quelque part, l'intérêt et peut-être toute la force aussi que peuvent représenter les pratiques artistiques, Hélène Gosset.
Ah bah, je suis tout à fait d'accord. Et puis, du coup, dans cette idée qu'on veut aussi accompagner des artistes vers leur professionnalisation, on a du coup un nouveau spectacle qui est en création, et Romain fera partie de ce spectacle parce qu'il souhaite que son slam soit intégré au spectacle. Et la création s'appelle Le Champ des Possibles, entre parenthèses un autre monde. Et en fait, les artistes tous singuliers qui composent notre troupe racontent leurs autres mondes, justement. Et c'est celui que, ce que vous disiez, que la société ordinaire, que la condition entre guillemets d'handicapé leur interdit tacitement, que c'est ce monde-là qui nous raconte, celui dont ils rêvent. Et finalement, le fait de leur donner la parole, ça enrichit tout le monde, parce que la contrainte les contraintes qu'ils peuvent avoir au quotidien, c'est aussi une source pour eux de de création, comme n'importe quel artiste, finalement, qui souvent s'inspire de la différence ou de l'altérité. Eux, c'est pareil. Et ils nous apportent quelque chose. Et c'est pour ça qu'on veut qu'ils soient plus entendus, plus vus, parce que tout le monde ressortira plus riche, en fait, de les écouter, tout simplement.
Et c'est peut-être aussi, petit à petit, travailler à... puisqu'il en est ainsi pour chacun d'entre nous, nous arrivons, je dirais, sur cette terre au monde, personne ne choisit. Il arrive dans un contexte, il arrive dans un mouvement qui est déjà là, dans un milieu familial, affectif, etc. Mais finalement, personne ne choisit véritablement, d'une part, bien évidemment, de comment il va, où il va paraître, dans quelle langue, dans quel pays, mais aussi sous sa forme physique apparente aussi. On sera là, les uns et les autres, avec le corps que nous sommes. Et il va falloir vivre avec ce corps et dire aussi avec ce corps. Et donc, c'est quand même une histoire de coexistence et de coprésence qui du coup, se trouve d'emblée quelque part mise en jeu. Et je dirais, est-ce que là aussi, dans cet aspect de coexistence et de coprésence, les pratiques artistiques ne doivent-elles pas aussi nous aider à faire qu'à un moment donné, c'est dans le mélange que va pouvoir se faire les choses?
Oui, ouais, tout à fait. Le mélange des personnes qui peuvent être c'est sur scène ou dans le public. Oui, c'est ça. C'est l'idée, c'est d'échanger. On est tous différents, mais on a tous aussi nos propres incapacités ou
tout à fait.
Nos propres handicaps, si on veut. Oui, tout à fait. C'est sûr que le mélange, le fait même d'aller présenter ces spectacles aussi aux enfants, dans les écoles, enfin... D'ailleurs, on voit que quand le public est composé d'enfants, en général, tout se passe très bien, même s'il y a les adultes qui sont crispés avant que le spectacle commence. parce que les enfants, ils prennent les choses comme elles sont, ils posent des questions que d'autres personnes n'osent pas poser, et pourtant, il n'y a pas de tabou à avoir. Donc oui, non, c'est vraiment important que ça se diffuse au maximum, et que des projets comme les percussions de Tréfort, ou notre projet Hardive, ou même d'autres, parce que il y a plein de choses qui existent,
tout
je pense
fait.
Comme ça, Astéréotypie ou les Schoolers en
tout à fait, en Belgique, par exemple, tout à fait. Merveilleux ensemble, d'ailleurs.
Oui, y a le Wild Classical Music Ensemble aussi en Belgique, que j'adore. Enfin, tous ces projets-là, il faut vraiment qu'ils soient vus. C'est vraiment ça qui est important, quoi.
Alors peut-être, puisque vous évoquiez spectacle, écoutons un des spectacles, un extrait en tout cas, un petit teaser qui lui correspond au spectacle aussi Chanteclair au Pays des Merveilles, qui a été présenté le 24 novembre dernier à 19h justement à la salle Éric Satie à Vénissieux. Et justement là, il y avait un partenariat également, on en parlera dans quelques instants avec vous, Hélène Gosset, avec les élèves de l'école de musique Jean Viennère. Et voici donc un petit extrait de Chanteclair au Pays des Merveilles.
Je m'appelle Chantecler, j'habite au pays des merveilles. Je suis un extraterrestre qui vient d'une autre planète et j'ai atterri sur Terre pour voir le beau paysage, de ce paysage merveilleux avec ses fleurs bleues et ses fleurs bleues, rouges et jaunes de toutes les couleurs. Et puis après, il y a tous les animaux qui viennent vers Chantecler qui disent... Ah, ils voient toutes ces têtes d'animaux, ils disent « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Alors ils disent « Comment je vais faire pour m'en sortir ?» Puis il y a des abeilles. Des coqs, des poules, c'est la maison aux animaux, on appelle ça. Il y a des chats, des lynx, des tigres, mais des petits tigres, pas des gros, des petits tigres avec des petits lions. Il y a des milliers de poules avec des milliers d'œufs.
Puis ils rencontrent d'autres Chantecler, c'est marrant, hein. Et il a fait des petits, ce Chantecler, c'est étonnant. Alors ils se racontent des histoires entre eux, alors ils se racontent des histoires de Chantecler quand au pays des merveilles. Puis après, c'est tellement merveilleux qu'on n'arrive même pas à imaginer, qu'on n'arrive pas au bout, parce que c'est infini. C'est un pays magique, où il n'y a jamais la guerre, jamais de problème. Tous les gens s'entendent à merveille, 24 heures sur 24, on va dire, ou alors ils sont disponibles.
Je m'appelle Chantecler, j'habite au pays des merveilles. Je suis un extraterrestre qui vient d'une autre planète et j'ai atterri sur Terre pour voir le beau paysage de ce paysage merveilleux avec ses fleurs bleues et ses fleurs bleues, rouges et jaunes de toutes les couleurs.
Résonance sur Radio B pour rendre audible l'inaudible, pour accueillir toutes les capacités parlantes. Et voilà, nous sommes toujours aujourd'hui dans le cadre de cette émission autour du projet musical de l'été musical avec Hélène Gosset, chargée de production et de diffusion à l'été musical. Alors voilà un des moments de concrétisation, Hélène Gosset, des multiples manières justement de concrétiser un peu le travail qui se fait à l'été musical. Mais peut-être, comme vous l'évoquiez tout à l'heure au début de cet entretien, essayons d'aborder un petit peu plus, on parlait de professionnalisation, on a pas mal développé, c'était important toute la partie amateur et de considérer la personne en situation de handicap comme un amateur de bon goût et donc qu'il puisse avoir accès à toutes les possibilités de la pratique musicale ou des pratiques artistiques, mais aussi être une autre question de pouvoir accompagner ceux et celles pour lesquels il y aurait aussi des envies de se dire pourquoi pas faire profession aussi au travers de la musique et en tout cas d'envisager sa pratique musicale dans un aspect professionnel. Et c'est toute l'importance du projet Ardive que vous commencez à mettre en place au sein de l'été musical.
Pour le projet Ardive, oui. Comment elle est venue cette idée, c'était déjà des personnes qui sont avec nous, qui viennent prendre des cours de musique avec nous depuis des années, certains depuis des dizaines d'années.
Oui.
Et en discutant avec eux, puisque chaque année on faisait la création d'un spectacle à l'épicerie moderne, dans des très belles conditions, certains ont eu l'envie d'aller plus loin. Ça leur a vraiment... ils se sont dit, est-ce que ça pourrait devenir mon métier? Est-ce que je pourrais faire ça, pas juste une représentation comme ça, à la fin de l'année? Et du coup, on s'est dit, c'est vrai que la qualité du spectacle, c'était Chantecler au Pays des Merveilles, donnait vraiment envie d'aller plus loin. Tout le monde était frustré, finalement, de se limiter juste à ça. Et donc, on s'est dit que oui, il fallait qu'on accompagne ces personnes dans le cadre d'une formation vraiment au spectacle vivant. avec des répétitions hebdomadaires, vraiment l'idée de se professionnaliser et de faire de leur pratique musicale un métier. Après, c'est comme dans la troupe de chant de clair, donc la troupe qui s'appelle les Moissonneurs, la plupart travaillent en ESAT.
Oui. Donc ça veut dire pour nos auditeurs qu'ils ont un travail la journée, un établissement d'aide par le travail, où chacun exerce une activité professionnelle.
Et donc, il a fallu aller voir leurs différents ESAT, parce qu'ils ne travaillent pas tous
dans le même établissement.
Et leur expliquer ce projet. Mmh. Et si au début, les directions d'ESAT étaient un peu surpris, parce qu'il n'y a pas beaucoup... en France, par exemple, il y a des ESAT qui sont à vocation artistique, mais il n'y en a pas beaucoup. Et après leur avoir expliqué, après avoir entendu les personnes concernées, ils ont été d'accord, du coup, pour libérer tous les vendredis les musiciens concernés. Et donc, tous les vendredis, ils peuvent venir ici, dans nos locaux, répéter avec nous. Mmh. Et vraiment aller dans cet objectif de professionnaliser. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une exigence, forcément, du coup... plus forte, puisqu'on fait des répétitions hebdomadaires et puis on a des spectacles qui sont programmés à plusieurs occasions. Et l'idée, c'est vraiment les gens se projettent dans ce projet personnel qui est même on se fixe d'ici 3 ans d'intégrer une troupe professionnelle et que ce soit leur métier en fait.
Oui, donc ça veut dire un travail très en amont. Alors vous l'expliquiez donc avec les différents établissements, ce qui va jouer sur un aspect statutaire aussi finalement, place de leur activité professionnelle d'aujourd'hui au passage à une activité professionnelle qui pourrait être autre, en l'occurrence la musique, donc une évolution de ce que peut être le parcours professionnel dans chacun de ces établissements pour chacune de ces personnes. Vous évoquiez le projet personnel, donc ça va rendre aussi dans ce cadre-là. Donc c'est un gros travail d'accompagnement de l'ensemble de ces structures et bien évidemment aussi des personnes. Et là, vous sentez une adhésion, en tout cas de la part vous évoquiez les directions et de leur évolution par rapport et leur réaction par rapport au projet. Et vous sentez qu'eux aussi ont envie de travailler cette idée qui va forcément un petit peu, je dirais, chambouler des choses, puisqu'on va faire côtoyer le monde médico-social avec le fonctionnement du mode de la culture, par exemple. Et là, il y a plein de travail, de réflexion, d'ajustement qui vont être à travailler avec l'ensemble des établissements, par exemple.
Oui, alors c'est sûr que les personnes en situation de handicap sont entourées de beaucoup de personnes, que ce soit des
oui, c'est vrai.
Il y a les personnes, par exemple, de leur foyer, il y a du coup leurs éduques, y a leur famille, il y a la direction de l'ESAT, ça multiplie du coup les interlocuteurs. Il y a même, par exemple, quand on fixe une répétition, il y a le fait aussi de réserver par exemple son optibus, en tout cas en région lyonnaise. Il y a un service de transport spécialisé qui les emmène. Donc il y a plein de choses au niveau...
C'est ça, toute une organisation, ouais.
Qui est important. Mais en tout cas, quand on est allé voir les directions d'ESAT, ça a été... on était étonnés, mais heureux, plutôt bien accueillis. Faut dire qu'à Lyon, nous, on travaille avec des établissements qui appartiennent à plein de différentes associations.
C'est ça.
Donc, ça peut être soit l'ADAPI, soit l'ALGED, la RHM, donc plein d'associations gestionnaires d'établissements. Et à Lyon, par exemple, l'ALGED a déjà cette sensibilité, eux, pour le théâtre, puisqu'il y a une troupe...
Oui, puisque depuis de nombreuses années, ils ont cette action dans ce champ-là, effectivement.
Avec l'Insolite Fabrique, qui est maintenant intégrée même à l'ESAT, donc c'est une des activités proposées. Donc ça, c'est super. Après, nous, comme on n'est pas intégré à un établissement, on reste une association... indépendante, et on mélange des gens qui viennent de partout, parce que finalement le projet il vient des personnes, donc on ne s'est pas dit on s'associe à cet établissement avec des personnes de cet établissement.
Mais c'est peut-être une force d'ailleurs pour le projet, puisque du coup ça garde votre indépendance, et comme on l'évoquait un petit peu tout à l'heure quand on parlait coexistence, coprésence, c'est aussi faire en sorte que comment le médico-social, l'établissement de santé, en tout cas en l'occurrence là, le médico-social et la culture travaillent ensemble finalement.
Ah oui, c'est sûr que là, il faut s'écouter, entendre les spécificités spécificités de chaque secteur.
Tout à fait.
Oui, quand on travaille dans les métiers du spectacle, par exemple, il y a des fois, les spectacles se déroulent le soir, ça peut être
tout
bête, mais ça modifie tout.
Absolument. Ne serait-ce que la prise de repas, par exemple.
Exactement.
Quand l'établissement est habitué à effectivement que les repas sont à 19h, effectivement, dans un fonctionnement du monde culturel, et vous l'évoquiez, ça va souvent se passer aussi en soirée ou le week-end à d'autres moments. En tout cas, d'autres horaires habituels du fonctionnement, lui aussi habituel, de l'établissement médico-social. Et donc, une prise en compte petit à petit, est là, très importante, de ce que ça va nécessiter de modifier, de changer pour aller dans cette direction.
De toute façon, dès qu'il y a du changement, ça, ça peut faire peur, mais là, c'est pour les personnes, c'est pour quelque chose de bien. Donc, on sent qu'il y a quand même de la volonté de tous les acteurs qui nous accompagnent. Après, dans notre troupe, on a vraiment des profils différents. Donc, il y a des gens qui travaillent dans ces établissements, dans les ESAT. Il y a aussi des gens qui ne travaillent pas, mais qui sont dans des centres d'accueil de jour.
Oui.
Mais on a aussi d'autres personnes qui sont hors structure, donc qui sont chez leurs parents.
Chez leurs parents.
C'est encore quelque chose de différent. C'est des personnes qui n'ont pas trouvé d'institution qui pouvait les accueillir, parce qu'il y a aussi ce manque de place, par exemple, dans les ESAT. Je pense à un jeune de la troupe qui s'appelle Colin, qui a du mal, en fait, qui enchaîne des stages en ESAT et qui ne trouve pas quelque chose qui lui convienne. Aussi parce qu'il lui, il se retrouve pas dans les métiers proposés, alors que sur scène ou au niveau de la musique, il est génial. Et donc c'est pour ça qu'on s'est dit, pour des personnes comme ça, il faut que nous on apporte une solution. On peut pas les laisser sans rien. Lui, il a envie d'aller sur scène, il est galvanisé quand il est devant un public. Et donc voilà, ça fait partie des choses qu'on veut, parce qu'on se dit que le projet, ça apporterait une réponse au manque d'espace d'expression qu'il y a pour les personnes en situation de handicap, et aussi la difficulté qu'ils peuvent avoir d'accéder à une formation professionnalisante vers les métiers du spectacle, de la culture.
Et ça veut dire aussi pour vous, j'imagine que vous y pensez et réfléchissez aussi également, ça va nécessiter une intensification effectivement du travail de ces personnes, puisque vous disiez l'aller vendredi, mais pour aller vers une... ça serait peut-être des journées un peu banalisées dans le temps de travail, mais au fur et à mesure du temps, si je peux dire ainsi, la nécessité d'agrandir ce temps de travail musical va devenir une nécessité. Donc l'organisation d'une équipe, de différentes matières aussi à travailler ou autres, je dirais tout au long d'une semaine, c'est-à-dire à un moment donné, peut-être le plein temps ou une manière de certaines formes de plein temps sont aussi dans vos objectifs pour permettre d'aller vers cette professionnalisation.
Ah oui, c'est l'objectif, c'est ça, ouais, que ça prenne de plus en plus de place, que ça s'intensifie.
Oui.
Après, comme nous, on est une association, une petite association, même si c'est vrai que beaucoup de gens nous entourent. L'idée, c'est que nous, on essaye de mobiliser au maximum aussi nos partenaires publics.
Oui, ça va nécessiter des partenariats, effectivement, publics à différents niveaux.
Pour organiser tout ça, on a besoin de soutien. Et ça, c'est aussi un discours qu'on essaye de porter auprès de...
J'imagine.
Que ce soit la région, le département, la DRAC. Donc oui, on cherche du soutien financier, comme beaucoup d'associations aussi, qui ont vu leur subvention diminuer. Donc il faut qu'on trouve de nouvelles ressources pour réussir à avancer, parce que nous, les personnes sont là et on avance de toute façon
avec elles,
le projet. Ouais.
Alors peut-être qu'on peut rappeler Hélène Gosset pour nos auditeurs et puis pour tous ceux et toutes celles qui souhaiteraient peut-être en savoir un peu plus, peut-être les contacts de l'été musical.
Alors l'été musical, alors on a un site internet où on a plein d'informations sur l'activité de l'association, donc c'est www.letemusical.org. Alors l'été musical, c'est L-E-T-H-E et musical avec un E à la fin. Et on a le site internet aussi du projet Ardiv.
Donc voilà, ça, je pense que c'est important.
Org. Oui, Ardiv, A-R-T-D-I-V.org. Et puis sinon, on a aussi nos locaux où les gens peuvent venir nous voir à Lyon. Mmh. Notre porte est toujours ouverte. On se trouve dans le 9e maintenant, au 10 impasse Pierre Bézet à Lyon. Et puis, si des personnes ont des questions, sont intéressées, veulent faire des ateliers, veulent connaître plus le projet Hardy ou nous soutenir, on peut toujours aussi nous contacter. Donc au 04 78 83 79 31. Voilà, ou par mail aussi, hein, au contact@letemusical.fr.
Très bien, ben merci beaucoup Hélène Gosset d'avoir participé à cette émission, de nous avoir éclairé sur l'ensemble du projet, de ce beau projet de l'été musical. Alors très belle continuité à vous, et puis bien sûr on aura l'occasion dans de prochaines émissions de Résonance de faire écho à nouveau de ce qui se passe à l'été musical. Merci en tout cas, à très bientôt.
Merci beaucoup.
Nous arrivons, chers auditeurs, au terme de cette émission. J'espère que vous avez eu plaisir à partager ce moment avec nous. Cette émission a été réalisée avec la complicité de Simon Deborne à la réalisation et à la mise en onde. Cette émission de Résonance sera rediffusée vendredi prochain de 14h à 15h, puis mardi de 13h à 14h. Vous pouvez bien sûr réécouter quand vous voulez et où vous voulez, aussi longtemps que vous le souhaitez, la présente émission, la podcastant sur le site de Résonance Contemporaine, www.resonancecontemporaine.org, ou sur le site de Radio B, www.radio-b.fr. Merci de nous avoir accueillis chez vous et très belle journée sur Radio B.